Accent d'Europe, Catherine Roland.
Ladies and gentlemen, it is my great honor to present the next First Lady of the United States, my wife, an amazing mother, an incredible woman, Melania Trump. Thank you very much. Thank you.
Thank you very much. You have all been very kind to Donald and me.
Bonjour à tous et nous partons en Slovénie, l'un des rares pays européens qui a acclamé avec enthousiasme l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche et surtout de son épouse. Il faut dire que la future première dame est née en 1970 dans ce qui était encore la République yougoslave de Slovénie. Très discrète lors de sa campagne électorale de son milliardaire de mari, souvent moquée à cause de son accent, Melania Trump a été reçue hier par Michelle Obama alors que leurs époux discutaient dans le bureau ovale. Portrait de cet ancien mannequin avec Simon Rico.
Avant de devenir Madame Trump, lors d'un fastueux mariage organisé par son riche époux à Palm Beach en 2005, elle s'appelait Melania Knaus. Son enfance, elle l'a passée à Sevnica, la bourgade d'origine de sa mère, dans un milieu modeste. Son père, Victor, était concessionnaire et sa mère, Amalia, était employée dans une usine textile. Pendant la campagne électorale, les tabloïds américains ont été nombreux à se délecter de l'histoire de cette petite Yougoslave dont le père était un ardent militant communiste. Adolescente longiligne, Melania devient mannequin à 16 ans, puis signe 2 ans plus tard un contrat avec une agence italienne. Sa carrière décolle vraiment en 1992 quand elle atteint la finale d'un concours organisé par le magazine féminin slovène Jana. Elle défile alors à Milan et à Paris, puis part pour les États-Unis en 1995 où elle rencontre Donald Trump 4 ans plus tard. Le milliardaire n'a de cesse de présenter sa troisième épouse de 24 ans, sa cadette, comme une jolie poupée dont le rôle discret consiste surtout à le tempérer. Alors que son mari a fait campagne contre l'immigration, Melania Trump devient la première First Lady d'origine étrangère depuis Louisa Adams en 1825, il y a presque 200 ans. La petite Slovénie compte bien surfer sur sa nouvelle notoriété. Srečko Ocvirk, le maire de Sevnica, espère par exemple que cela permettra de placer la Slovénie et Sevnica sur la carte du monde. Mais si les Slovènes sont nombreux à se réjouir de sa réussite, Melania Trump semble peu sensible à leur enthousiasme. Elle a plusieurs fois répété qu'elle avait coupé les ponts avec la Slovénie et qu'elle n'y reviendrait jamais.
C'est notre rendez-vous du vendredi, désormais avec Mathilde Auvillain, notre correspondante en Italie, toujours à bord de l'Aquarius en Méditerranée. Depuis un mois quasiment, Mathilde suit le travail des volontaires sur le bateau affrété par SOS Méditerranée avec MSF pour venir en aide aux migrants qui tentent la traversée. Il faut savoir qu'une journée de sauvetage coûte 11 000 euros. Une quinzaine de députés de gauche ont donc décidé de puiser dans leur réserve parlementaire pour aider l'association. Une bonne nouvelle qui n'était pas encore parvenue aux sauveteurs de l'Aquarius hier. Le bateau croise actuellement au large de la Libye et se concerte avec les autres navires des ONG pour couvrir toute la zone. Et c'est le troisième carnet de bord de Mathilde Auvillain.
Dimanche, le jour venait à peine de se lever quand l'Aquarius a repris la mer, laissant le port de Catane et l'ombre de l'Etna derrière lui. Un départ retardé au dernier moment par l'entrée dans le port du Bourbon-Argos, l'un des 3 bateaux de sauvetage de migrants en Méditerranée de Médecins sans frontières. Sur l'Aquarius, le personnel de MSF s'est alors précipité à bâbord pour saluer et surtout pour encourager les équipes de l'autre navire. Jonquil, la sage-femme de l'Aquarius, s'inquiétait de savoir combien de temps allait durer pour ses collègues les procédures de débarquement des plus de 860 rescapés de différents naufrages qui étaient alors à bord du Bourbon-Argos. Une fois sorti du port de Catane, l'Aquarius a directement mis le cap vers la zone de sauvetage. Les différents bateaux des ONG se coordonnent entre eux pour ne pas laisser la zone à découvert. Ils se consultent pour savoir qui est à l'ouest de Tripoli, qui est à l'est. MSF, par exemple, gère 2 bateaux, le Dignity, le Bourbon-Argos, en plus de son partenariat avec SOS Méditerranée sur l'Aquarius. Save the Children est présent avec le Vos Estia. L'ONG Moas a 2 bateaux, le Topaz Responder et le Phoenix. Il y a aussi les ONG allemandes avec les bateaux Sea-Watch, Sea-Eye, Minden, Juventa et les Espagnols de Proactiva avec le voilier Astral, toute une flottille humanitaire qui est devenue essentielle en Méditerranée pour sauver des vies et qui n'a rien à voir et surtout aucun lien avec le dispositif européen Triton de Frontex. À bord de l'Aquarius, certains sauveteurs volontaires de l'équipe de SOS Méditerranée ont justement déjà une expérience avec les autres ONG, comme par exemple Claudia Pérez, qui revient d'une mission sur l'Astral, comme Martin Ernst, qui connaît le CI et le Juventa, et comme David Heune, qui est allé à Lampedusa et à Lesbos avec Sea-Watch, une expérience qu'il me racontait un après-midi de tempête au coin d'une table dans le mess, alors que les vagues s'écrasaient contre les hublots.
Tout ça est arrivé par hasard. J'avais passé une mauvaise nuit au boulot, alors je suis allé sur Facebook et j'ai vu que Sea-Watch cherchait des volontaires. J'ai envoyé ma candidature et 2 semaines plus tard, j'étais à Lampedusa sur le bateau. Quand je suis rentré à la maison après cette mission, je ne me sentais pas très bien, je pleurais beaucoup et j'ai décidé que je devais faire plus, même si je pensais déjà que ce n'était pas la solution au problème des traversées en Méditerranée, et je pense toujours d'ailleurs. Mais je crois que si j'ai la possibilité de faire quelque chose, je dois le faire. Alors, je suis allé à Lesbos avec Sea-Watch, et c'est là que j'ai entendu parler de SOS Méditerranée. Je pense que c'est une bonne idée parce que c'est une organisation civile européenne et les initiatives doivent être à l'échelle du continent. Une idée européenne, c'est toujours une bonne idée pour essayer de tout faire tenir ensemble.
David Heune n'est resté que 3 semaines sur l'Aquarius, soit pour une rotation, comme on dit à bord. Il y a quelques jours, il a dû rentrer en Allemagne pour reprendre son travail. À Berlin, David gère 2 boîtes de nuit. Entre son engagement humanitaire et sa vie professionnelle, c'est le jour et la nuit.
Moi, je gère 2 boîtes de nuit à Berlin. Et c'est un monde complètement différent et ça ne rend pas les choses très simples pour moi. C'est compliqué d'un côté de sauver des personnes en Méditerranée et de l'autre de travailler dans un secteur où on abreuve les gens de musique et de fêtes, où on fait tout pour qu'ils oublient leur vie. Ils arrivent le vendredi soir et le lundi, ils retournent au bureau. Ils ne peuvent pas penser à faire la révolution parce qu'ils ont trop bu ou trop dansé le week-end. Mais je sais que mon engagement a changé la façon de voir de certains de mes proches. Et je crois que les organisations civiles sont très importantes pour ça. Quiconque peut venir sur un bateau et ensuite rentrer chez lui et raconter son histoire, c'est ça qui changera les gens.
Et en attendant de nouveaux sauvetages qui se font rares ces derniers jours en raison de la tempête qui s'est abattue sur la Méditerranée, le soir, au mess, la cantine de l'Aquarius, on parle un peu toutes les langues. Les équipes de SOS Méditerranée incarnent vraiment la dimension civile et européenne de cette jeune organisation humanitaire. Les sauveteurs volontaires actuellement à bord sont allemands, français, grecs, espagnols, italiens, irlandais, hollandais. Certains s'engagent pour la première fois, d'autres se sont déjà rencontrés à Lesbos. Mais les voilà tous sur le même bateau, avec le même rêve, celui d'une Europe plus humaine, plus ouverte, un rêve qu'ils glissent dans une bouteille jetée à la mer.
Ces sauvetages en mer ont été critiqués récemment par le ministre des Affaires étrangères autrichien. À Vienne, on estime que les opérations pour récupérer les naufragés ne peuvent pas donner un ticket pour l'Europe. Sous pression de l'extrême droite, le petit pays alpin se débat actuellement avec les questions migratoires. Alors beaucoup de policiers, infirmiers ou encore associatifs se forment désormais au management de l'immigration dans un master professionnel en alternance à Salzbourg. Reportage Céline Béal.
Aujourd'hui, le débat porte sur migration et sécurité. Il est question des vendeurs de drogue d'origine nord-africaine sur le parvis de la gare, mais aussi de graffitis racistes observés sur les murs de la ville. Dans l'assistance, une 20aine d'élèves qui prend des notes. Selon l'un de leurs professeurs, le sociologue Arnaud Pilgram, les responsables devraient sortir de leurs clichés pour réduire les problèmes liés à l'immigration.
Le problème, c'est que l'on continue de considérer l'immigration comme une anomalie, alors qu'à l'échelle mondiale, c'est ce qui arrive dans la vie à de plus en plus de gens.
L'immigration fait partie du quotidien de la plupart des élèves, puisqu'ils travaillent déjà dans le secteur. Ainsi, Manuela, 21 ans, est coordinatrice de l'intégration dans une collectivité territoriale du Vorarlberg à l'ouest de l'Autriche. Elle trouve dans les cours beaucoup de matière qui lui sert dans la pratique.
Tout ce qui est du domaine du juridique en particulier, je peux l'utiliser dans le travail parce que ce sont des choses complexes et qui changent constamment. Ici, je reçois les dernières informations que je peux ensuite relayer dans les 20 communes dont je suis responsable.
Manuela et ses camarades n'ont pour l'instant assisté qu'à un tiers des cours. Ce mois-ci, ils commencent à étudier le management social avant d'achever leur formation l'année prochaine sur des modules plus théoriques, regroupés sous le titre « Culture, religion et migration ». Certains de leurs professeurs sont des universitaires, comme Arnaud Pilgram, d'autres des professionnels, une ancienne ministre, des avocats, un conseiller en entreprise ou encore un policier. Car le programme du master est parti d'un questionnement pratique, comme l'explique le sociologue Nikolaus Diemel.
Où est-ce que l'intégration au marché du travail fonctionne bien? Comment peut-on créer des formations pour immigrer quand les parents ne peuvent pas aider les enfants avec leurs devoirs? Comment est-ce qu'on amène la famille à soutenir l'enfant? Il y a maintenant tout un tas de projets modèles sur ces sujets.
L'idée du master a émergé à la fin des années 1990, alors que devenait évident le déclassement économique, social et culturel de jeunes issus de l'immigration turque, tchétchène ou d'ex-Yougoslavie. Mais depuis l'an dernier, la pertinence de la réflexion sur l'intégration a encore redoublé lorsque sont arrivés de nombreux réfugiés syriens et afghans. Pour le professeur Diemel, trouver des solutions à ce double problème d'intégration est un défi qui nécessite une connaissance approfondie des migrations et des migrants.
Je crois que nous devons comprendre comment ces communautés fonctionnent pour ouvrir les possibilités d'intégration. Je ne peux pas simplement dire, hop, j'intègre les gens, je dois venir les chercher là où ils sont. Pour cela, je dois comprendre leur point de vue.
Ce qui explique que ce master accorde aussi une large place aux études culturelles comparées, la compréhension de l'islam sunnite, celui pratiqué par les Turcs, Tchétchènes, Bosniens et Syriens, est d'ailleurs approfondie. Mais pour l'instant, les élèves en sont encore au module politique et juridique. Un des cours est consacré aux droits des étrangers. Juriste et policier, le professeur Christian Schmalzel décrit les procédures de contrôle et de renvoi, apprend à ses élèves à reconnaître les différents titres de séjour. Pour Hannes, c'est du déjà vu. Il faut dire qu'il est également policier et que les expulsions dont il est question font partie de son quotidien. Les autres modules de formation, en revanche, l'amènent sur des terrains nouveaux, avec plus ou moins de succès.
Il y a des choses un peu trop philosophiques à mon goût. Ces histoires de management et de sociologie, cela manque de concret. Mais je suis quand même très satisfait de cette formation.
Les étudiants forment un groupe hétérogène. Dans son cours, le professeur policier Christian Schmalzel est parfois confronté à des avis très critiques.
En particulier des étudiants issus du monde associatif, il peut y avoir des points de vue très hostiles quand j'explique les fonctions de la police. C'est justement là qu'il est important d'entrer dans le dialogue pour leur donner l'occasion d'avoir une autre perspective des actions policières et du coup d'élargir leur capacité de réflexion.
Quel que soit le résultat de ce dialogue particulier sur le rôle de la police des étrangers, il se tient dans le calme. Dans un pays polarisé depuis le printemps par une campagne présidentielle historique entre un candidat d'extrême droite et un autre soutenu par les Verts, il est rassurant de savoir que dans les salles de classe, policiers, administrateurs et activistes se rencontrent et réfléchissent ensemble au rapport que leur pays peut développer face à ces migrants.
Le programme s'appelle Just a Girl et il est diffusé sur le net par la chaîne pour enfants de la BBC. L'héroïne de cette web-série est une petite fille de 11 ans qui était auparavant un garçonnet. À travers le quotidien d'Amy Jones, la chaîne britannique met l'accent sur les difficultés que peuvent rencontrer les enfants et les ados transgenres. Mais des parents relayés par le Parti conservateur n'ont pas apprécié Marie Billon.
Hi, this is Amy Jones. I'm 11 years old and no, that really does sound weird. Amy Jones enregistre chaque soir un petit journal audio sur son téléphone. Le ton est enjoué, un peu moqueur. Elle parle de ses amis, de ses parents. Ça n'est pas vraiment filmé, juste une succession de photos et de dessins qui défilent sur l'écran dans chacun des 25 épisodes d'un peu plus d'une minute. Un dynamisme qui capte l'attention des adolescents et c'est le but. Parce que rapidement, le ton devient moins léger. Amy révèle qu'elle prend un traitement hormonal pour bloquer sa puberté. Avant, elle s'appelait Ben.
That I wasn't going to come to school wearing boys' clothes anymore, but girls' clothes. I wasn't Ben, I was Amy.
Et si elle commence à tenir un journal aujourd'hui, c'est parce qu'elle change d'école, elle entre au collège et elle a peur de ce que ses nouveaux camarades vont penser d'elle. Seuls les professeurs connaissent sa situation, mais un soir, quelques jours après la rentrée, elle reçoit un SMS.
Tell me or I'll find out anyways. Should I tell my parents?
Quelqu'un a découvert son secret, l'appelle Ben et lui donne rendez-vous le lendemain au collège. Il commence à la harceler et finalement révèle le secret d'Amy à tout le monde. Le garçon qu'elle aimait bien refuse tout à coup de lui parler et elle n'est plus soutenue que par sa meilleure amie. Just a Girl est autant une série sur les enfants transgenres que sur le harcèlement. Elle veut faire connaître la situation compliquée de ces jeunes qui souffrent dans leur identité. Il s'agit de casser un tabou, mais également de montrer la souffrance d'un élève devenu la tête de turc de ses camarades. Sauf que la série ne plaît pas à tout le monde, loin s'en faut. Il faut laisser leur innocence aux enfants, disent les uns. Ce genre de programme pousse les jeunes à penser à changer de sexe et leur font perdre leurs repères, s'inquiètent les autres. Un député a annoncé son intention d'écrire à la BBC pour se plaindre, mais c'était fin octobre. Depuis, la polémique est complètement retombée. Just a Girl est toujours en ligne et ne fait plus parler d'elle, ce qui semble prouver que la web-série n'était finalement pas si largement contestée.
Over and out.
Électro-guitare. Électro-guitare.
Ou simplement électrique. Réponds-moi. Parle-moi.
Musique.
Eh oui, vous l'avez deviné, hein, c'est l'heure de retrouver Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors, en ce 11 novembre, vous nous faites redécouvrir une grande dame du folk anglais qui sort de son silence de 35 années.
La belle surprise de l'automne, un nouvel album de la chanteuse Shirley Collins qui a fêté cette année son 81e anniversaire et n'avait pas enregistré de disque depuis 35 ans. Shirley Collins, c'est un grand nom du folk anglais, notamment parce qu'elle a joué un rôle décisif dans le renouveau du genre au tout début des années 60 à Londres, où elle vit alors après avoir passé quelques temps aux États-Unis aux côtés de l'ethnomusicologue Alan Lomax, avec qui elle sillonne le sud des États-Unis pour enregistrer des chansons traditionnelles américaines. À son retour en Angleterre, Shirley Collins publie des albums qui vont connaître un grand succès dans les années 60 et 70 en solo, avec sa sœur Dolly ou avec le groupe The Albion Country Band. Des problèmes de voix la conduisent à se retirer au début des années 80. La voici aujourd'hui de retour avec un album folk pur jus, recueil de chansons traditionnelles américaines et anglaises, une pure merveille.
Way down in yonder valley, pretty Polly did dwell. She was courted by a captain who loved her so well. But when her cruel parents came this war to know, they parted pretty Polly and her own true love. One night she lay musing on her bed, and a sudden strange fancy come to Polly's head. No father, no mother shall make me fall. I'll list for a soldier and follow my love. Then coat and breeches she put on, and in every degree she looked like a man.
Et accent, on vous laisse avec la voix de Shirley Collins qui interprète Pretty Polly. À la réalisation, il y avait Jérémy Besset. Aujourd'hui, vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Ne zappez pas, dans quelques instants, les infos.
Saint Polly, oh Polly.